Change de job, l'émission qui donne des ailes sur Cowork La Radio.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Cowork La Radio pour ce second numéro de Change de job, l'émission qui vous donne des ailes, effectivement, pour mener au mieux vos projets de transformation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux métiers qui explosent et donnent, et dont les recrutements bondissent depuis la fin du confinement. Certains secteurs professionnels sont même en pleine expansion, alors que d'autres, hélas, licencient à bout de bras. Alors pourquoi, justement, et comment certains métiers arrivent à s'en sortir mieux que d'autres? Comment font ces secteurs d'activité pour continuer à exister, se développer et tirer profit de la crise malgré une activité fortement ralentie et l'arrivée en masse du télétravail, mais surtout quels sont les leviers à actionner pour accompagner ces changements professionnels autant du côté des recruteurs que du côté des candidats. Et pour justement évoquer notre sujet du jour, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui vont justement nous faire part de leur expertise, avec Pierre Lambin pour commencer. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la direction des données, des études et analyses à l'APEC. Vous allez nous expliquer justement les raisons de votre présence et surtout nous présenter l'APEC. Et nous avons comme second invité Kevin Rich. Comment
Bonjour.
Ça va Kevin? Bonjour.
Super.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes Growth Manager, vous êtes même à la tête d'un service Growth Manager pour la société AOS. Vous allez nous présenter votre entreprise. Alors justement déjà, Kevin, on va peut-être commencer par vous parce que je crois qu'on va parler d'un métier qui a explosé pendant la crise et qui est donc le vôtre, Growth Manager. Vous allez nous expliquer d'abord ce que c'est qu'AOS, quelle est la genèse de cette entreprise.
Oui, alors AOS a été créé en 2017. C'est une jeune entreprise, maintenant c'est une scale-up, on est 120 collaborateurs maintenant.
Oui.
AOS, ça veut dire appel d'offres simplifié.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est un logiciel qui simplifie tout le processus d'appel d'offres pour le BTP et la construction, du lancement de l'appel d'offres jusqu'à la signature des dossiers marchés.
Très bien. Pierre, vous ne connaissiez pas ce métier, vous, hein ? Growth Manager, vous... Non, vous découvrez vous aussi.
Les,
hein.
Les contours, je connais ça.
Oui, c'est ça,
les
contours.
Spécifiquement.
Très bien. Alors, en quoi consiste ce métier, Kevin?
Alors, si on traduit simplement, ça veut dire croissance.
Oui.
Donc l'objectif, c'est en fait de booster la croissance d'une entreprise le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions. Donc en fait, nous, on a deux missions au sein de notre pôle. Le premier, c'est en externe, d'en faire croître l'entreprise.
Oui.
Et en interne, d'améliorer les process aussi de la société pour que cette croissance soit aussi maîtrisée dans des conditions acceptables pour les collaborateurs.
Très bien. Alors, il y a différentes étapes, hein, j'imagine, hein, pour être accompagné, pour faire ce métier. Est-ce que tout le monde peut faire ce métier ou est-ce qu'il y a justement des profils très particuliers?
En fait, c'est l'avantage de ce métier-là. On peut facilement y accéder. Dans le sens facilement, il faut quand même se former, mais c'est des formations assez courtes. Le background, le passé des personnes compte peu. Au final, ce qui est important, c'est la capacité à apprendre.
Mmh.
Et l'état d'esprit derrière, c'est essayer d'apprendre le plus de techniques possible, le plus rapidement possible. Mais c'est accessible à beaucoup de profils. Nous, on a des personnes qui viennent de la communication, du marketing,
oui.
Du développement web,
très bien.
Du design. Donc, voilà,
c'est un secteur d'activité qui est plutôt ouvert à différents profils.
Tout à fait.
On va rentrer un petit peu plus dans les détails, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Juste avant, Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter l'APEC?
Oui, en quelques mots.
Oui.
Donc l'APEC est un des acteurs majeurs de l'emploi, notamment de l'emploi cadre, hein, puisque c'est son prisme au quotidien. L'APEC emploie un peu moins de 1000 collaborateurs.
Oui.
Et sa mission première, c'est d'accompagner d'une part les entreprises pour satisfaire leurs besoins de recrutement de cadres, et d'autre part, les cadres, les jeunes à accéder à un emploi, les cadres à changer d'entreprise, changer de métier, changer de région, ceux qui sont à la recherche d'un emploi d'en retrouver un.
Mmh.
Et ma direction est là pour décrypter les tendances du marché, pour apporter un certain nombre de repères sur ce marché de l'emploi cadre, quels sont les métiers, les secteurs qui recrutent, comment se porte le marché, quelles sont les missions des grands métiers cadres. La formation métier, c'est la première information la plus regardée par les jeunes diplômés, par exemple. Et on a développé également des outils qui permettent d'aider les cadres, les jeunes, les entreprises à prendre des décisions en connaissance de cause. Voilà ce qu'est le marché. De façon à les aider dans leur recherche d'emploi, par exemple.
Et vous confirmez que l'univers de l'emploi a énormément changé, voire s'est chamboulé totalement depuis l'arrivée de cette crise.
La crise sanitaire, bien évidemment, a fait l'effet d'un tsunami, puisque personne ne s'y attendait. Elle a des causes complètement différentes à celles de 2008-2009.
Vous l'avez vécu également, j'imagine.
Que j'ai vécu en tant que directeur des études,
oui.
qu'on a analysé,
oui.
qu'on a décrypté de la même façon. Après, il n'y a pas deux crises qui se ressemblent et il est probable que la reprise sera peut-être différente, peut-être plus rapide que ce qu'on a connu il y a 10 ans.
Voilà. Oui, alors justement, avant de parler avec vous des secteurs d'activité qui explosent, quelles ont été les premières difficultés engendrées par la crise que vous avez dû gérer du côté de l'APEC ?
Alors, pour l'APEC, pour ses salariés.
Oui, oui, d'abord, bien sûr.
Pour l'APEC, pour ses salariés, la crise nous a obligés à nous adapter très rapidement parce que personne ne s'y attendait. Donc, passer du système présentiel, quasiment présentiel pour tous les salariés, à un système où on devait travailler à distance, avec des technologies qui n'étaient pas toujours adaptées, toujours mises en place.
Oui.
Bon, on a découvert les affres de la visio et tous ces
erreurs
au départ.
Oui.
Et on voit bien l'évolution qui s'est produite entre le premier confinement et les deux suivants. Les entreprises se sont adaptées assez rapidement, comme les collaborateurs. Après, il a fallu gérer d'autres problèmes. L'accompagnement de collaborateurs, c'est ça qu'il a fallu gérer aussi lors du premier confinement.
Bien sûr, d'abord en interne et après.
C'est veiller à s'assurer d'avoir un contact quasiment quotidien. Et ça, c'est vraiment une règle qu'on s'est imposée. Enfin, j'ai 40 collaborateurs à la direction des études. Hein, donc, on a été très vigilants à cela pour ne pas laisser quelqu'un trop isolé, trop à l'écart. Donc, au moins d'avoir un contact téléphonique quasiment quotidien avec chacun.
Oui, parce qu'il faut être déjà très éveillé, même en forme, pour pouvoir accompagner les autres dans leurs difficultés aussi. Hein. C'est ça aussi le secret de votre travail et de votre accompagnement.
Exactement. Ouais. Sinon, sinon, on a continué à faire fonctionner l'activité, puisque ce qu'on faisait en présentiel, on l'a aussi adapté pour pouvoir l'effectuer à distance.
Oui.
Aussi bien des entretiens individuels que des ateliers collectifs. Donc là aussi, on a adapté le service en conséquence, puisque aucun centre n'a fermé durant la période. L'activité a continué à fonctionner, même si, c'est vrai, les recrutements se sont effondrés.
Oui, ça c'est sûr.
Au mois de mars-avril 2020, on a eu une baisse de 60% des offres d'emploi cadre publiées sur APEC.fr.
Oui, donc il y a eu quand même une certaine détresse du côté évidemment des candidats, aussi peut-être des jeunes diplômés qui ne savaient pas à peu près où aller dans les prochains mois. Alors j'imagine que vous avez dû les accompagner, comme vous dites, différemment. Vous n'avez pas coupé le lien, c'est ce qui a été le plus important.
Tout à fait, c'était essentiel. Parce que nous avons une mission d'intérêt général.
Bien sûr.
Donc on est là justement pour accompagner les publics les plus en difficulté, aussi bien les entreprises qui peuvent, malgré tout, malgré le fait qu'il y ait moins de recrutement, ce qu'on a observé même en 2020, la persistance de difficultés de recrutement sur des métiers en tension, sur des métiers qui sont encore moteurs malgré la crise.
Et là, on parle des cadres qui ont quand même plus de facilité à trouver un emploi que les autres, en général, en
oui,
règle générale.
Oui, mais la crise n'a épargné personne.
Voilà, effectivement.
La crise en 2020, elle a touché tous les secteurs, tous les métiers, cadres et non-cadres. Alors, bien entendu, ce qui a trinqué en premier, c'est l'intérim, les contrats courts.
Eh oui,
voilà.
Évidemment.
Il y a moins de contrats courts et moins d'intérim. Chez les cadres.
Alors Kevin, chez AOS, comment vous avez pu tirer profit justement de cette crise ou de cette pandémie pour accélérer votre business et le fructifier ?
Alors nous, de ce côté-là, sur une année, on a doublé nos effectifs.
Ouais, c'est incroyable, alors qu'il y a des secteurs d'activité.
Donc, il y a des secteurs où c'est plus dur que d'autres. Nous, dans la technologie, finalement, c'est assez positif. On a toujours recruté en télétravail, c'était dans notre culture.
Oui.
Cette année encore plus, du coup, on a même accueilli des gens intégrés totalement à distance. Ça a plutôt bien fonctionné. Il faudra leur demander, mais je pense que ça a plutôt bien fonctionné.
Oui, donc c'est dans votre culture d'entreprise, dans votre mentalité propre, dans votre ADN finalement, le travail à distance, donc ça n'a pas été une surprise pour vous ?
Alors ça a été un changement du jour au lendemain, en fait on a pu s'adapter. On avait tous notre ordinateur à la maison avec des outils qui étaient adaptés, donc tout de suite en visio le lendemain, capable de continuer notre travail, donc on a continué à recruter là-dessus. Pour la partie business, pour vous répondre, en fait on a su développer des nouvelles fonctionnalités aussi. Justement pour favoriser le travail à distance. Je vous donne un exemple concret dans le BTP, la construction. Quand on finit un appel d'offres, il faut signer les marchés, les contrats.
Oui.
Donc avant, les entreprises se rendaient sur place au siège social du donneur d'ordre pour signer tous les papiers. Et en fait, nous, pendant le Covid, on a sorti une fonctionnalité qui permet de signer électroniquement les dossiers marchés. Et en fait,
à distance.
À distance. Et donc de continuer le travail comme si... Comme si demain,
en toute sécurité, j'imagine, toute sécurité. Avec des données qui sont sécurisées, sans aucun problème.
Tout à fait.
Et est-ce que, alors, vous aviez ce sens de l'adaptation qui était assez élevé chez vous, mais est-ce que, du côté de vos clients, de vos collaborateurs, en tout cas sur le marché, est-ce que eux, par contre, ils ont eu du mal à s'adapter à cette façon de faire les choses ?
Alors, pas tant que ça. On les accompagnait beaucoup aussi pour leur expliquer comment utiliser les outils de visio, notamment de partage d'écran pour aussi montrer comment fonctionne la plateforme.
Oui.
Donc en fait, on était plus là. C'était notre rôle aussi en tant que scale-up de montrer comment utiliser ces outils-là. Donc à chaque visio, à chaque rendez-vous, on a une équipe qui est spécialisée là-dessus, qui accompagne les donneurs d'ordre des entreprises à utiliser ces outils.
Du côté de l'APEC, Pierre, est-ce que vous avez aussi développé des outils supplémentaires, voire différents depuis l'arrivée de la crise ?
Alors, on disposait déjà d'outils, on les a renforcés.
Oui.
On a démultiplié les moyens, si je puis dire. Puisqu'on a permis quasiment à tous les salariés d'avoir un ordinateur portable.
Ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'est ça ?
Ce qui n'était pas le cas.
C'est voilà. Vrai.
Donc c'était un passage obligé de façon à permettre à chacun de travailler de chez soi, ce qui a été le cas. Voilà. On a aussi développé des moyens pour travailler en visio. Voilà. Donc, tout ça, bon, ça a pris un peu de temps, mais bon, ça s'est fait parce que... on a très vite anticipé aussi. Bon, on a anticipé par principe de précaution, justement pour éviter d'arrêter l'activité. Il était essentiel de continuer l'activité, de continuer à accompagner à la fois les entreprises, mais aussi les cadres et les jeunes diplômés. Ça, c'était essentiel.
Alors justement, Pierre, est-ce que vous pouvez nous... On va rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails concernant ces métiers qui explosent. Quels ont été les secteurs d'activité où vous avez eu une démultiplication de demandes, autant au niveau de l'offre que de la demande ?
Alors, déjà peut-être revenir rapidement sur 2020. J'évoquais tout à l'heure que la crise fait l'effet d'un tsunami, parce que personne ne s'y attendait. Donc l'impact a été très fort au niveau économique, et tous les secteurs ont été touchés. Il y a une exception peut-être, c'est le secteur, bon, assez logiquement, de la santé. Santé, action sociale, qui a résisté. Voilà,
parce qu'il y avait ça ne vous étonne pas.
Il y avait un appel assez important, voilà, une demande très, très importante. Voilà. Donc tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui a été épargné. Toutes les régions de la même façon. L'Île-de-France, qui est la première région de France en matière d'emploi cadre, hein, c'est 40% des emplois cadres, c'est 50% des recrutements. Voilà. Et la région du France a été fortement impactée, la plus fortement impactée même. Voilà. Après, quels sont les secteurs qui reprennent plus vite que d'autres ?
Oui, qui ont une reprise en tout cas assez rapide et incroyable. Oui.
Alors, dans l'emploi cadre, les recrutements aujourd'hui ils sont portés par trois locomotives, qui sont les activités informatiques, l'ingénierie R&D, mais aussi tout le secteur du conseil. Donc le conseil, l'audit, le juridique, voilà, tout cela.
Ah,
et ces secteurs, s'ils ont été fortement impactés en 2020, là aussi, parce qu'il y avait moins de demandes, moins de contrats, ou des contrats arrêtés, ça a repris assez rapidement. Voilà. Même si, depuis le début de l'année, sur les 5 premiers mois de l'année, on constate toujours une baisse, et on est à peu près à moins 12% d'opportunités d'emploi cadre par rapport à ce qu'on avait durant la même période en 2019. Je ne compare pas à 2020, parce que 2020, ça s'est effondré. Donc il faut revenir à l'année 2019, puisque l'année 2019, c'était l'année record des recrutements de cadres en France. Voilà.
Oui.
Donc ces secteurs que j'ai évoqués ont fortement repris, sans toutefois retrouver le niveau de recrutement.
Oui, ça va prendre un petit peu de temps,
voilà,
évidemment.
Ça prend un petit peu de temps, voilà. Mais les secteurs, les mieux lotis, ce sont ceux-là. Il y en a aussi dans l'industrie, hein, même si l'industrie est en peine. Souvent, l'image qu'on a de l'industrie, c'est l'aéronautique, l'automobile, qui sont vraiment en souffrance. Bon, je ne vous dis pas la région d'Occitanie en ce moment, avec les programmes aéronautiques qui sont stoppés ou au ralenti. Voilà. Donc là, il y a un impact très, très fort et ça ne reprendra pas avant... peut-être 18 mois, 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais il y a des secteurs qui résistent, la chimie, la pharmacie, tout le secteur équipement électrique. Voilà, il y a des secteurs qui repartent et c'est de bon augure.
Donc les profils qui correspondent à ces secteurs d'activité ont plus de chances, en tout cas, de trouver du travail que d'autres.
Oui, là aussi, ça fait partie de nos missions. C'est-à-dire qu'à un jeune diplômé, il faut lui dire, compte tenu de ta formation, bon, on est sur des profils de niveau, la plupart, bac plus 5 et plus. Donc, à ce niveau de formation, on a un capital de compétences, de connaissances, bon, qui permet aux jeunes bon, de s'orienter vers d'autres choix auxquels ils n'auraient pas pensé. Parce que, bon, je vais prendre un exemple. On fait de la com en études supérieures parce qu'on est passionné par cela, on est bon là-dedans. Et assez légitimement, on veut faire de la com à la sortie. Mais il n'y a pas de débouchés, ou les débouchés sont réduits.
Donc il faut se diriger vers d'autres solutions.
La PEC est là pour lui ouvrir tous les champs du possible, à partir de ce qu'est le marché, et de lui dire, bon, bah, temporairement, bon, sur une carrière qui va durer plus de 40 ans, bah, tu peux peut-être faire du marketing, du commercial, et revenir tôt ou tard sur la com.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, Pierre, puisque ça revient aussi à ce que disait tout à l'heure Kevin, puisque a priori, pour être growth manager, on peut aussi sortir de la com.
Tout à fait.
Pour
tout à fait.
Postuler chez vous. Donc c'est peut-être des profils aussi qui n'avaient pas la possibilité peut-être de travailler dans le milieu de la com, mais qui peuvent se diriger vers ce fameux métier qui explose, qui est le vôtre.
Bah, tout à fait. Je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités.
Exactement.
C'est le cas. C'est un très bon exemple, la communication, puisque c'est quand même des métiers qui sont très prisés, avec beaucoup de personnes qui sortent chaque année, je pense, de ces formations-là.
Oui.
Et le métier de grosse accepte totalement ces profils-là avec un accompagnement et une formation, évidemment, sur la prise de poste. Mais on le fait, on a des personnes dans mon équipe, donc on est 22 actuellement, et on a des personnes qui viennent justement de la communication, entre guillemets classique, hein, sans mais effectivement, du coup, c'est assez courant.
Oui, quand on parle de votre métier, on dit que ce sont des gens qui génèrent des leads. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Alors,
mais ça fait partie du gros du métier.
Oui, c'est une grosse brique du métier, effectivement. Donc, générer des leads, c'est générer des prospects, tout simplement. Oui. Trouver des personnes intéressées pour l'équipe commerciale. Pour toute personne qui était commerciale comme je l'ai été, prospecter et signer des contrats, c'est quand même un métier difficile. Et donc le rôle, effectivement, du growth manager, c'est de trouver suffisamment de contacts et d'intéresser ces contacts avant de les transmettre au commercial.
Donc ça demande quoi comme qualité, finalement, en dehors du fait qu'il faut avoir peut-être un diplôme qui va dans le sens de ce métier, mais quelles sont les vraies qualités d'un bon growth manager ? Oui, j'en perds mon accent.
Pas de souci. Il y a deux qualités.
Ils vont se moquer de moi là-bas, la tête.
Je perds aussi parfois.
Alors, vous voyez.
Il y a deux qualités principales. La première, c'est la capacité d'apprentissage.
Oui.
Et la deuxième, c'est la créativité.
Oui.
Je pense que la créativité, ça se travaille d'ailleurs aussi, hein, de toute façon.
Tout à fait.
Pour justement générer des prospects, des leads, il faut savoir être créatif, puisque maintenant, les budgets aussi se réduisent de plus en plus sur les parties marketing, donc il faut être capable de trouver d'autres solutions pour générer des prospects. Et donc la capacité d'apprentissage pour plusieurs raisons, pour les outils utilisés, pour les techniques, et aussi lorsqu'on a des retours de ces prospects-là, essayer de s'adapter le plus vite possible pour les intéresser.
Alors justement, du côté des métiers, comme vous dites tout à l'heure, Pierre, du côté de ces secteurs d'activité qui explosent, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats doivent faire des efforts supplémentaires ou peut-être parfois s'asseoir sur des choses sur lesquelles ils avaient l'habitude de négocier et ils se disent aujourd'hui, c'est plus possible ?
Ce que recherche avant tout un recruteur dans cette période un peu compliquée, voire incertaine, parce que jusqu'à présent, il y avait quand même une incertitude sur le court terme.
Oui.
Donc on n'était pas certain du carnet de commandes à 3 ou 6 mois. Donc ce que recherche le recruteur avant tout, c'est le fait que le candidat soit opérationnel immédiatement. Donc opérationnel immédiatement, ça veut dire...
Grand sens de l'adaptation, en gros.
Un grand sens de l'adaptation,
oui,
c'est ça.
Bien sûr.
Autonome,
oui.
Il s'adapte, et il a déjà aussi un premier bagage en termes d'expérience professionnelle. Donc, à fortiori, c'est plus compliqué pour un jeune diplômé, parce que la seule expérience dont peut... faire valoir un jeune, c'est l'expérience à travers des stages. Bon, mais pour autant, c'est très important, les stages. Justement, ça permet de valoriser son capital d'expérience. Mais c'est ça que doit mettre en valeur le candidat avant toute chose. Et aussi un très bon relationnel, qui plus est, dans cette période où, justement, on y viendra certainement dans vos prochaines questions, c'est un mode... l'organisation du travail est en train d'évoluer, avec un mode de fonctionnement hybride entre du présentiel... dû à distance, on ne reviendra pas au monde d'avant. Hein, donc cette hybridation impose d'autant plus une capacité à s'adapter, une agilité et une écoute encore meilleure qu'avant.
Kevin, vous êtes d'accord, les candidats de l'avant-pandémie ne sont plus du tout les mêmes candidats qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas les mêmes choses.
Tout à fait. Alors, on leur donne pas les mêmes choses et eux ne demandent pas les mêmes choses.
Expliquez-nous. Est-ce que, par exemple, alors on a beaucoup parlé aussi de bien-être au travail. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui entre le fait de travailler à la maison et venir au bureau, est-ce que ça, c'est par exemple des choses qu'on vous demande?
Tout à fait.
Oui.
J'ai le cas concret dans mon équipe. J'ai la moitié de mon équipe qui a un télétravail à 100%. Donc parfois, ils viennent de temps en temps au bureau à Paris, mais j'ai des personnes en Corse, des personnes en Bretagne. dans le sud-ouest, dans l'est, etc. Et donc, en fait, effectivement, ils demandent souvent à avoir cet équilibre de vie. Donc,
vie familiale travailler, et travail.
Ouais, travailler chez soi et venir au bureau quand c'est possible à Paris. On est tout à fait sur ce modèle-là. Donc après, il faut mettre en place les outils pour leur permettre de faire
Bien
ça.
Sûr.
Mais c'est vrai que pour eux, ça devient de plus en plus des exigences. Et notamment sur des profils de développeurs web, qui sont plus techniques.
Parce qu'ils n'ont pas besoin forcément de se déplacer toute la semaine à Paris, effectivement.
Et souvent, nous, notre équipe de développement, ils sont très bien chez eux.
Oui.
Mais ils viennent de temps en temps au bureau quand même pour dire bonjour.
Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aussi hors antenne avec Pierre Lamblin, sur cette confiance aussi qu'ont les patrons vis-à-vis de leurs employés. Beaucoup de patrons ont besoin de voir leurs employés pour leur faire confiance et se dire « Ah ben je les vois, donc ils travaillent ». Est-ce que c'est une vraie... Est-ce que c'est une fausse croyance, selon vous ?
Je pense que c'est le cas dans encore beaucoup d'entreprises,
oui.
Malheureusement. Pour nous, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, finalement, c'est le résultat qui compte. On suit les chiffres, s'ils sont bons.
Ça va faire plaisir à Pierre, ça, parce que c'est vrai que c'est exactement ce qu'il me disait.
Tout à fait, moi je suis dans cette,
oui.
dans ce type de management depuis des années, donc je partage totalement.
Vous êtes un précurseur, alors. Mais je pense que ce n'est pas encore le cas dans toute l'entreprise.
Mais la crise a été véritablement un accélérateur des changements. Puisque bon, il a installé un mode de fonctionnement à distance qui était quand même peu régulier, peu fréquent, en un mode très régulier. Et nous avons interrogé récemment les cadres sur cette question, et une grande majorité, trois quarts des cadres souhaitent continuer à bénéficier du télétravail. Et un sur deux a raison de deux, voire trois jours par semaine. Il est là, le curseur.
Oui, oui.
Ils ont bien compris tout l'intérêt qu'ils y trouvaient, que l'entreprise y trouvait. Confort de travail quand on travaille au calme chez soi. On y gagne dans les temps de transport quand on travaille dans les métropoles. On est aussi efficace. Après, on a bien vu aussi, à l'autre extrême, quand on était totalement en télétravail, qu'il n'y a plus de lien social, plus...
Oui, donc il faut un espèce de juste milieu. Hein.
Il faut un juste milieu. Et ce juste milieu, bon, les cadres sont extrêmement lucides sur ce qui passe dans l'entreprise, dans le relationnel. Et ce curseur, il est autour de deux jours.
Voilà. Alors, est-ce qu'il est vrai que les gens qui sont de plus en plus en télétravail, en tout cas, moi, c'est le son qui revient à mes oreilles, c'est qu'ils disent on travaille deux fois plus, ou voire trois fois plus. Est-ce que c'est une réalité ou pas ?
En termes d'horaire, je ne pense pas, mais peut-être en intensité.
En matière d'intensité,
si
surtout.
On est plus concentré, effectivement, on est moins coupé, en fait.
Oui, donc ça devrait faire plaisir au patron, alors.
Normalement. Mais en termes d'horaire, je ne suis pas sûr.
En termes d'horaire, non. Mais après, en termes d'intensité, oui.
Après, c'est une question de pratique managériale.
C'est ça.
Et c'est là où les cadres, qu'est-ce qu'ils expriment ? Ils nous disent souhaiter être accompagnés, être formés, justement, pour éviter des dérives dangereuses.
Oui.
À savoir, par exemple, on l'a tous connu en période de confinement, à savoir des réunions non-stop, en visio, même pendant l'heure du déjeuner. Donc, on n'a pas de coupure, pas d'arrêtation. Et là, en effet, on peut exploser.
Ouais,
donc, le télétravail n'autorise pas tout. La visio n'autorise pas tout.
Alors,
de la même façon, sur les problèmes de déconnexion, tout est lié. Donc, et derrière tout cela, ce sont des vraies pratiques managériales, des points de vigilance à avoir en permanence vis-à-vis de ses collaborateurs, de façon aussi à les accompagner sur des règles saines au sein d'un groupe, d'un collectif.
Donc le dialogue et la communication, c'est la base de tout, entre les employés et l'écoute avec justement les chefs d'entreprise. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais on arrive justement aux dernières minutes de cette émission. J'aimerais bien qu'on parle juste rapidement d'avenir. Vous dites, vous, Pierre, que le monde d'avant n'est plus le monde d'aujourd'hui. Comment vous imaginez le monde du travail demain, avec toutes ces perspectives et avec votre analyse à vous en tant que professionnel ?
Alors,
rapidement, Pierre.
Je vais essayer d'être rapide. Alors, quand j'ai dit monde d'avant, monde d'après, c'était par rapport à l'organisation du travail.
Voilà. Oui.
Quand on a évoqué la qualité de vie au travail, il y a une aspiration aujourd'hui qui est très forte de la part des salariés, notamment cadres, justement d'avoir ce juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bon, ça n'est pas d'hier. On en parle déjà depuis 15 ans, 20 ans. Mais là, la crise a accéléré les choses. Les cadres ont goûté à cela, si je puis dire. Ils ont pratiqué même. Ils ont mis en pratique, donc forcément, ils ne veulent pas revenir en arrière. C'est assez légitime. Donc, ça va continuer. Et en parallèle, si la formation, si l'accompagnement est au rendez-vous, si les pratiques managériales évoluent, ça ira dans le bon sens.
Ouais. Tout le monde doit s'adapter, en fait.
Voilà, c'est ce que je voulais évoquer dans le monde d'avant, dans le monde d'après. Après, si on parle spécifiquement marché, moi, je suis plutôt optimiste, même si le début de l'année, bon, il est... Il est lent, progressif. Hein. On a parlé de rattrapage, reprise progressive. On va certainement le voir, sous réserve qu'on n'ait pas un quatrième pic, hein, bien évidemment. Personne ne le souhaite. Mais le second semestre devrait être meilleur que le premier. Donc, on devrait retrouver des niveaux de recrutement plus importants. Donc, des signes quand même encourageants, à la fois pour les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un phénomène d'embouteillage. Donc, il faut pouvoir se démarquer de ses camarades de promotion, des anciens qui n'ont pas encore trouvé de travail ou qui ont été débarqués parce qu'ils étaient sur contrat court. Il ne faut pas hésiter à postuler sur un CDD, quitte à avoir un CDI plus tard. Voilà. Tout est permis et on est là pour accompagner. Et aussi, je pense aux seniors, à l'autre extrême. C'est aussi difficile pour des seniors qui ont été débarqués et qu'on retrouve quand ils sont à la recherche d'un emploi dans l'accompagnement.
Oui, donc surtout, grand sens de l'adaptation, c'est ce que j'ai envie de retenir, hein, parce que finalement, il faut s'adapter à toute situation nouvelle.
Plus que jamais.
Effectivement. Alors, Kevin, vous, de votre côté, tout va bien du côté d'AOS. Oui. Vous êtes même en période de recrutement intense. Alors, pour être growth manager, clairement, aujourd'hui, il y a des opportunités, vous confirmez. Oui. Du côté d'AOS, vous recrutez en ce moment ?
On recrute dans plusieurs équipes.
Alors, dites-nous, quelles sont vos recherches pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ont un profil ?
Toujours dans l'équipe growth, on est toujours intéressé par des profils, l'équipe marketing, l'équipe commerciale, l'équipe sales, l'équipe CS. Alors CS, c'est Customer Success. Et on expliquera peut-être une autre fois ce que c'est.
Oui, avec plaisir, vous reviendrez, bien sûr.
Un nouveau métier
sûr.
Sur la relation client, plutôt.
Bien sûr, ouais.
Donc, tous ces métiers à profil plutôt business, effectivement, on continue de recruter.
Oui.
Beaucoup de jeunes, évidemment.
Oui.
Et un petit conseil, c'est évidemment de se former aussi. Pendant les études, il y a la théorie et ce qu'on peut aussi acquérir à côté.
Il y aura, vous pensez, un jour une formation pour être growth manager à part entière ?
En école, vous voulez dire, ou
oui,
à côté ?
En école.
En école, oui, ça commence à venir. Ça commence à venir. Là, je le vois depuis un an ou deux ans.
C'est fou,
j'interviens
hein.
dans mon ancienne école de commerce à ce niveau-là,
oui.
justement, pour transmettre en fait mes...
Très bien. Donc, et vous, l'avenir, vous l'imaginez de la même façon que vous avez appréhendé cette crise ? Ça veut dire toujours télétravail, communication, adaptation
Alors oui, avec quand même un équilibre. Un équilibre.
Vie en fait, perso.
Alors vie perso et puis présentiel, télétravail. Je pense que totalement télétravail, on perd le lien aussi quand même.
C'est ce que disait Pierre tout à l'heure, tout à fait.
Et voilà, donc trouver un équilibre entre les deux jours, trois jours, je trouve ça bien.
Très bien. Si on veut postuler, on va peut-être donner le site d'AOS.
Alors soit sur LinkedIn, on a une page LinkedIn avec toutes les offres.
Parfait.
Soit sur Welcome to the Jungle, qui est une plateforme de recrutement.
Oui.
Et sinon sur notre site internet www.go-aos.io.
Très bien. Et tout le monde peut tenter sa chance, hein, quel que soit le profil. Hein.
Tout profil ouais.
Pierre, évidemment, pour aller voir les offres du côté de l'APEC, il y en a un, on peut le dire. Il faut y aller, il faut
se
renseigner.
Beaucoup, de plus en plus.
Donc ça veut dire, moi, ça me fait plaisir de finir sur une note positive, parce que tout le monde pense que la reprise est très compliqué et que les offres ne sont pas au rendez-vous, mais finalement, vu votre retour, les choses sont en train de devenir plutôt positives. On est d'accord.
Tout à fait, ça s'améliore, exactement.
On va vers quelque chose de plutôt ensoleillé que grisâtre. Hein.
Et
on
surtout, ne jamais hésiter à s'entourer de conseils. Alors, on est toujours plus
accompagné.
Fort à plusieurs, être accompagné. L'APEC a mis en place un dispositif renforcé auprès des jeunes, hein, le plan jeune, objectif premier emploi, donc ne pas hésiter à se tourner vers l'APEC, qu'on soit jeune ou pas jeune d'ailleurs.
Très bien. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir hein, pour parler, je ne sais pas moi, de management.
De management.
Parce que ça vous plaît le management. Hein.
Volontiers.
Et vous peut-être
volontiers.
De service client, puisque c'est des sujets qui intéressent beaucoup nos auditeurs. Merci
plaisir.
À vous d'avoir
Merci.
Été avec
Merci
nous. Pierre Lamblin, directeur de la direction des données, des études et de l'analyse à l'APEC et Kevin Rich, Heads of Growth chez AOS. Merci à vous deux
Merci.
Et à très vite pour un autre numéro de Change de Job.
Change de job, l'émission qui donne des ailes, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.